Voilà, regarde la personne qui est à côté de toi. Tu es une porte. Et j'espère que tu n'es pas une porte blindée. Hein? J'espère que tu n'es pas une porte inaccessible. J'espère que tu n'es pas une porte fermée. En tout cas, pas fermée aux choses de Dieu. Mais réalise et regarde vraiment et prends conscience que ce matin, ce soir, que celle qui est à côté de toi est une porte, celui qui est à côté de toi est une porte, mais toi-même, tu es une porte. Et c'est le message qui brûle dans mon cœur. J'espère en tout cas vous le transmettre avec la même passion que le Saint-Esprit me l'a communiqué. Donc, attendez-vous à des montées en termes d'aigu, en termes d'excitation. Et je vais essayer de me calmer. Déjà, j'ai marqué dans mes notes, calme-toi Romarie. Voilà, parce que quand je sais qu'il faut que ça secoue, j'ai tendance à faire suivre la voie. Donc, il faut que je me le dise moi-même. Calme-toi, Romaric. Tu es une porte. Et sans plus tarder, Romains 5, verset 12. Ça va s'afficher, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort est passée à tous les humains, parce que tous ont péché. Hein? La Bible nous dit dans ce passage, retenez, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et parce que le péché est entré, la mort est entrée et tous ont péché. Un peu plus loin, au verset 15, « Mais il n'en est pas du don de la grâce comme de la faute. Car si, par la faute d'un seul, la multitude a connu la mort, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce d'un seul être humain, Jésus-Christ, ont-ils abondé pour la multitude ?» Tout ça pour dire quoi ? Ça pour juste en introduisant, réaliser que le péché est entré par un seul homme. Mais la Bible nous dit aussi que la grâce et le salut sont venus par un seul homme. Et il y a déjà cette réalité spirituelle que le péché n'a pas envahi l'humanité par la vie de plusieurs, mais le péché est entré dans l'humanité par la porte d'un homme. Mais aussi la grâce, la réconciliation et la bénédiction est entrée dans la vie de l'homme et de l'humanité par un seul homme, on sait, par Jésus-Christ. Et ceci pour dire que je dois prendre conscience que par une porte, par un homme, par une femme, il peut exister ce contact entre le ciel et la terre. Par ma vie, je peux, oui, bien sûr, faire entrer le péché, faire entrer la désobéissance, faire entrer la décadence. Ça, c'est la réalité. Mais Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Et Jésus-Christ est ce précurseur qui est en train de nous dire que c'est possible que par ma vie, que la bénédiction puisse entrer. Par ma vie, que la grâce puisse entrer. Et en fait, donc on le voit dès le départ que Adam a été la première porte d'entrée. Et l'homme n'est pas juste, je veux dire, un tas d'organes, mais l'homme est un être spirituel. Et je veux prendre conscience qu'en tant qu'être spirituel, je peux être cette porte pour la vie de quelqu'un, pour une vie meilleure. Je peux être cette porte pour la vie de quelqu'un, pour une vie désastreuse. Mais je crois dans ce lieu que Dieu a des portes ouvertes pour bénir d'autres personnes à travers ma vie. Nous pouvons être une porte fermée quand Dieu veut qu'on soit une porte ouverte. Et c'est ça qui est dommage. Et je prie et j'ai prié pour que, à l'instar de Jésus-Christ, alors que nous sommes appelés ses disciples, que je puisse dire que par ma vie, des hommes et des femmes sont sauvés, que par ma vie, des hommes et des femmes sont éclairés, que par mon témoignage, des hommes et des femmes sont amenés de la mort à la vie. Il est possible. Et parfois, on fait tellement de prières à Dieu, on s'attend et c'est bon, on a la foi en Dieu. On prie, on jeûne, on cherche Dieu. Mais est-ce qu'on est réellement conscient que je peux changer, que Dieu veut changer la réalité de l'Église par ma vie? Que Dieu veut changer la réalité de ma famille par ma vie. Que Dieu veut changer la réalité peut-être de mes voisins par ma vie. Parce que je suis une porte. Parce que celui qui est en contact de moi peut littéralement avoir accès au ciel par mon témoignage, par ma vie, par ma soif, par qui je suis. Tu es un être spirituel qui fait entrer quelqu'un dans une autre dimension. Mais lorsque tu ne prends pas conscience que tu es une porte, cette porte peut définitivement être fermée. Et tu crois juste que c'est une affaire entre Dieu et l'autre. Mais Dieu veut se servir de toi. Tu es une porte. Quelle porte veux-tu être? Est-ce que tu veux être, comme je disais, une porte blindée, fermée, barricadée? Et on connaît l'expression « je suis fermé ». Et parfois, c'est pas juste des mots. Et lorsqu'on le dit, mais littéralement, on se ferme. Et on connaît l'expression « ouvre-toi un peu ». Est-ce que dans ce lieu, tu es ouvert à Dieu? Est-ce que dans ce lieu, tu as pris conscience aussi que Dieu veut que tu t'ouvres aux autres? Tu ne peux pas être ouvert à Dieu, ouverte à Dieu, en étant fermé à l'autre. Quand tu es ouvert à Dieu, tu es en train littéralement de dire, comme on l'a chanté, pour la cause de ce monde, Seigneur, utilise ma vie. Et on va le voir à travers Acte 16, à partir du verset 26, vous allez voir, je suis en train de littéralement décoller. Vous allez voir, on va augmenter un peu la vitesse. Acte 16. Vous connaissez le contexte. C'est Pierre qui est en prison. Tout à coup, ils sont en train, Paul et Silas, ils sont en train de chanter des cantiques. Tout à coup, il y a un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de funeste pour toi. Nous sommes tous là. » J'ai prié, rien que pour cette phrase, que vous puissiez entendre des cris des hommes et des femmes qui disent, « Je suis là. » Quand tu as la porte qui est fermée, en fait, tes oreilles sont tellement fermées, tu n'entends plus le cri de quelqu'un à côté de toi qui te dit, « Je suis là. » Nous sommes tous là. Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis les ayant fait sortir. Il leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, quelque chose va se passer si tu ouvres ta porte. Le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Ce texte, on va le voir, c'est à propos de portes. C'est pas juste les portes de la prison qui s'ouvrent. Nous, on peut s'arrêter à ça. Les portes de la prison qui s'ouvrent, et deux fois nous a dit, toutes les portes s'ouvrir, le geôlier voit que les portes s'ouvrent, mais c'est plus que des portes physiques qui s'ouvrent. C'est un homme, et je vais pas vous parler de ceux qui annoncent l'évangile. Mais j'aimerais mon regard et le Saint-Esprit attirer mon regard sur ce geôlier. Ce geôlier va être une porte ouverte. Ce geôlier va devenir une porte pour Paul et Silas. Le geôlier représente prophétiquement ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Le geôlier représente, oui, un Dieu qui ouvre des portes, mais un homme qui va faire sortir. Le geôlier représente une vie qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, une fois touché. Et j'ai pensé à ce texte rapidement, Luc 4, que vous connaissez, que nous connaissons. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. On en a parlé samedi dernier. Et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est ça, une des caractéristiques d'une personne remplie du Saint-Esprit. Elle devient une porte de sortie pour des prisonniers et une porte d'entrée pour ceux que Dieu attire. Combien de fois Dieu attire des hommes et des femmes, mais à cause de ce que dans l'église, et quand je parle de l'église, c'est pas forcément dans les célébrations, mais ce qui se passe, oui, lors de l'église, lors des célébrations, mais ce qui se passe surtout à l'extérieur. Combien de fois Dieu attire des hommes, des femmes? Mais nous sommes des portes barricadées. On dit Seigneur, sauve. Seigneur, envoie. Seigneur, touche. Mais alors que tu as une porte fermée, littéralement, bam! On se prend la porte. Et quelqu'un qui est touché se prend la porte. Mais quand tu as une porte ouverte, lorsque tu prends conscience que tu es une porte, tu disposes ton cœur à accompagner d'autres à entrer, à aller plus loin. Et je prie que cet après-midi qu'on réalise que si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit, Dieu va se servir de nous pour que d'autres puissent entrer dans une nouvelle dimension. Dieu a toujours besoin d'hommes et de femmes pour emmener d'autres plus loin. Ça ne se passe pas que seul dans sa chambre. Ça ne se passe pas juste seul dans le secret. Mais Dieu va utiliser des hommes et des femmes. Parce que le but ultime de la bénédiction, c'est de devenir quoi? Une source de bénédiction. Vous vous souvenez d'Abraham? C'est ça le but de la bénédiction. En fait, il y en a qui croient que je suis béni quand Dieu me fait du bien. Ça, c'est de la pacotille. Ça, c'est le bas niveau de la bénédiction. Le plus haut niveau de la bénédiction, c'est lorsque je deviens une source de bénédiction. Je suis béni quand je bénis les autres. Je suis réellement béni lorsque Dieu m'a béni, je peux bénir les autres. Je suis réellement béni lorsque Dieu m'a touché, je touche les autres. Je suis réellement visité lorsque je suis visité, les autres sont visités. Tant que les autres ne sont pas visités, c'est pas le plus haut niveau de la bénédiction. J'ai touché à des miettes. La Bible dit quoi? Lorsqu'on croit, des fleuves d'eau vive passent d'agne, jaillissent. Donc, lorsque tu as une porte, lorsque tu prends conscience que tu as une porte, tu vis des choses avec Dieu et tu ne peux pas les garder. Automatiquement, ça sort. Ça éclabousse ceux qui sont autour de toi. Regarde ceux qui te fréquentent. Si ta vie ne les éclabousse pas, il y a un souci. Il y a un souci. Si la bénédiction s'arrête à toi, c'est un détournement de fond. Je dirais, c'est un détournement de don. Le don que Dieu te donne, c'est pour les autres. Donc, si la porte est ouverte, automatiquement, le don qui est en toi va s'exprimer. Peu importe, si tu retiens le don, et on a tous des exemples comme ça, celui qui retient le don finit par mourir. Parce que Dieu ne donne, et c'est ça la bénédiction. Dieu te donne pour que tu bénisses. Et Dieu va le dire à Abraham, je vais te bénir, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas point final. Tu seras une source de bénédiction. Si Dieu te rend grand pour que ton Facebook puisse avoir des milliers d'abonnés et que tu es satisfait, ça c'est la bêtise. Détournement de don. Tu vas rendre compte à Dieu. Mais que ma vie, et on voit dans la vie de ce geôlier, et on va voir rapidement, comme le geôlier, nous pouvons être cette porte. Premièrement, une porte pour libérer les captifs. Et moi, ça me touche. Ça me touche de voir l'action puissante, miraculeuse, surnaturelle du Saint-Esprit qui ébranle les portes et les fondements. Toutes les portes sont ouvertes, mais il faut un homme pour les faire sortir. Quand même. Et ça me fait penser au texte que nous avons lu. Donc, les ayant fait sortir, il nous est parlé pour proclamer aux captifs la délivrance. Lorsque nous sommes visités, ça, je fais ce lien avec Luc 4. Parce que Dieu, oui, ouvre des portes. Mais il nous faut des femmes, des hommes pour faire sortir. Et je prie et je prophétise que tu puisses être cet homme, cette femme qui va dire, oui, il y a des portes ouvertes, mais Dieu a besoin de moi pour prendre d'hommes, des femmes qui sont captives pour les faire sortir. Nous avons besoin et Dieu a besoin d'hommes et de femmes. Et quand je parle de captifs, oui, c'est des non-chrétiens, mais aussi des chrétiens. Des captifs sont près de toi. En fait, tu es entouré de captifs. Tu as une porte et tu as besoin de saisir quelqu'un et dire, je vais t'aider à te faire sortir de ton lieu de détresse, de ton lieu où tu es lié, tu es en captivité. Il y a des captifs, et comme je le disais en introduction, qui sont là et qui disent, nous sommes tous là. Est-ce qu'on les entend encore? Nous sommes tous là. Il y a des captifs qui disent, je suis là. Et c'est un geôlier qui va dire, ok, Dieu a ouvert les portes, mais je vais te saisir et je vais te faire sortir. J'ai l'autorité en tant que geôlier de te faire sortir. J'ai l'autorité en tant qu'enfant de Dieu de te faire sortir. En tant qu'enfant de Dieu de te parler de son amour, de te parler de ce que j'ai vécu, de te parler de mon expérience. Le problème, c'est que l'Église garde, pour de tardes raisons. On a confié à des spécialistes le fait d'être des portes. C'est pas mon affaire. C'est l'affaire de quelqu'un d'autre. C'est l'affaire peut-être d'un ministère. C'est l'affaire, je ne sais pas. Mais on a complètement détourné ce que Dieu nous a donné. Il y a des captifs qui sont là. Ils sont pas loin, ils sont près de toi. Ça m'a fait penser à Moïse. Souvenez l'appel de Moïse. L'Éternel va dire à Moïse, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. » Dieu, c'est Dieu qui voit. Hein? « J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis, ça c'est toujours Dieu, je suis venu pour le délivrer des Égyptiens. » Qui va délivrer? C'est Dieu, on est d'accord. « Pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays. » Un pays ruisselant de lait et de miel. Jusqu'à là, donc, Dieu se présente à Moïse, il dit, voilà mon plan. J'ai vu, j'ai entendu, je suis venu, je suis descendu pour faire sortir ce peuple parce qu'ils sont en train de souffrir. OK, c'est une bonne nouvelle. Fais-le, Seigneur. Ça, c'est le verset 8, 7, 8. Verset 10, Dieu va dire à Moïse, va donc maintenant. Oh, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Dieu entend, Dieu voit, Dieu descend, il dit, je vais les faire sortir. Mais quand il appelle Moïse, il dit, c'est toi qui vas le faire sortir. Mais qui fait sortir? Dieu a besoin de toi parce que tu es une porte. Et dans le monde de l'esprit, tu es une porte spirituelle et Dieu a besoin de ta main. Dieu a besoin de ton oreille, Dieu a besoin de ton cœur, Dieu a besoin de qui tu es pour écouter, pour entendre, pour entourer, pour prier, pour pleurer avec quelqu'un qui est captif et qui dise, peu importe mon état, mais je sais que je suis un geôlier, je sais que j'ai une autorité. En tant qu'enfant de Dieu, je connais mon identité. Je vais dire, je vais te faire sortir. De là où tu es, je vais te faire sortir. Ensemble, on va sortir. Parfois, il faut arrêter de prier et commencer à agir. Les geôliers auraient pu dire, oh, allez-y, allez. Non, les ayant fait sortir. Tu es une porte entre le ciel et la terre pour libérer les captifs que Dieu veut te montrer. Va donc maintenant, va dire Dieu à Moïse, je t'envoie. Quelqu'un a besoin d'entendre à nouveau l'appel du Seigneur. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Et quand je parle d'appel, pensez pas que ministère, ça c'est, je vais pas mépriser, mais c'est qu'une portion, la plupart des appelés ne sont pas des ministères d'Éphésiens 4. La plupart des appelés sont des portes. Et nous sommes tous des portes. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas réalisé ça, on est fermé. Vous souvenez de Jacob? Alors, suis-moi bien, ça sera un peu subtil. Mais, par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez capter. Genèse 28. Alors qu'il voit des anges de Dieu monter et descendre. Monter et descendre. La Bible dit, il va dire ceci, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et quand j'ai lisé ça, je réalisais que nous sommes bien souvent dans la dimension de la maison de Dieu. Mais nous avons oublié la dimension de la porte des cieux. Nous sommes dans la dimension de la maison de Dieu pour recevoir, pour vivre la communion fraternelle. Mais la dimension de la porte, c'est la dimension de se donner, la dimension d'ouvrir, la dimension de se livrer, la dimension de prendre conscience que je peux être en un lien, un point de contact entre le ciel et la terre. Tu es un point de contact entre le ciel et la terre. Mais pour comprendre cela, suis-moi bien, c'est subtil. Les anges de Dieu montent et descendent. Le problème de l'Église actuelle, c'est que nous avons constitué un groupement d'hommes et de femmes qui désirent monter seuls dans l'esprit. La vie chrétienne ne consiste pas à monter seul, mais à monter avec des captifs que Dieu va libérer. Parfois, on prie pour vivre des choses avec Dieu. On a soif. On a soif. Et je me souviens, j'étais jeune converti. J'étais là, je dis, Seigneur, je veux vivre. Vivre dans le surnaturel. Vivre. Et à un moment donné, j'ai pleuré, je criais tellement à Dieu. Et j'ai entendu une douce voix du Saint-Esprit qui m'a dit, pourquoi? Mais en fait, pourquoi en fait? Je me suis jamais posé l'action. Pourquoi à ce moment-là? Parce que je voulais monter. Et parfois, en tant qu'église, on veut monter. On veut plus de croissance. C'est bon, on n'est pas contre. On veut plus d'assistance. On veut un meilleur local. Et toutes ces choses sont bonnes. Mais si ce n'est pas connecté à la cause du monde, si ce n'est pas connecté à l'amour que j'ai pour mon prochain, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi, bien sûr, il faut rechercher ces choses, mais tout en aspirant à ces choses, nous avons besoin du Seigneur que je puisse voir comme tu vois, que mon cœur puisse refléter ton cœur, que je puisse être rempli de ton amour, pour que je comprenne en fait que l'important, c'est que tu libères des vies. L'important, c'est que l'Esprit de Dieu est dans ma vie, non pas juste pour que je fasse karabaria korobo soto baria kerebesto korobrele ke shek karabaria la korobo bobo et que je sente quelques frissons, ah je me sens mieux. Hein? Ah j'ai passé un bon temps dans sa présence. Oh Seigneur, pardonne-nous. Chaque fois que nous avons cru que le but de l'évangile, c'est que nous puissions passer un bon temps dans ta présence, mais que nous puissions être tellement remplis et dire, j'ai envie de le communiquer, j'ai envie de le relâcher, j'ai envie de libérer quelque chose, afin que des âmes viennent à toi, afin que mon frère qui est à côté soit complètement délivré, afin que des captifs passent de la mort à la vie. Je veux voir des anges monter avec moi, parce que je suis descendu aussi pour aller chercher des captifs. Et c'est ce que Christ a fait. Éphésiens 4, verset 8. Un jour, je prêcherai certainement ce texte. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs. Ah, oh, ça c'est beau, ça on aime ça. Il a emmené des captifs et l'a fait don aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique auparavant, il est aussi descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Celui qui est monté est aussi descendu jusqu'en bas et a emmené des captifs. Et je prie et je déclare que l'Église aime puisse être une Église qui monte, mais qui aussi qui sait descendre, qui va chercher les captifs, qui va chercher les captifs, ceux qui ne sont pas à Christ, dans les villes, les alentours où on est en train d'implanter comme Brignoles, oui, mais qui sont aussi attentifs. Il y a des captifs à côté de toi, même dans l'église. Je parle des deux encore une fois. On a des captifs. Et c'est terrible, tellement centré sur nous que parfois, oh, tellement un bon moment dans sa présence, mais il y avait un captif à côté de toi, tu es sorti, même pas tu as discerné. Parce que ta porte est tellement, en fait, inexistante que tu es câblé en haut. Moi, je monte. Ah, j'aime les anges de Dieu parce qu'ils montent et descendent, ils montent et descendent, ils montent et descendent. Et j'aime Jésus parce que lui qui est monté, il est parti chercher aussi les captifs. Il est parti aussi chercher les captifs. Ne monte pas seul. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne monte pas seul, s'il te plaît. Défions-nous les uns les autres. Angela, où sont tes captifs? Réponds pas. Romaric, où sont tes captifs? Tu es en train de prier pour qui? Tu es en train de jeûner pour qui? Tu es en train de fléchir les genoux pour qui? Tu es en train de pleurer pour qui? Ah, je suis en train de pleurer pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai besoin de telle percée. Ok, quelle est la dernière fois que tu as pleuré, pas pour toi? Et tu sauras si tu as des captifs autour de toi pour qui tu pries. Si tu pleures que parce que tu as atteinte, si tu pleures parce que toi tu souffres, si tu pleures parce que toi tu as envie d'une percée, quand est-ce que tu as jeûné pour quelqu'un d'autre? C'est ça, aller chercher des captifs. Tout ça, après tout le reste là, c'est des beaux discours. C'est des beaux discours. Une église qui rayonne, c'est une église qui loue son Dieu ici pour la cause de ce monde, mais qui sort et vous savez, ça brûle. On peut pas porter, comme on dit, tout le poids du monde. Mais si chacun de nous emporte la cause que Dieu a mis en nous, que Dieu a mise, c'est au déplacé avant l'auxiliaire à voir, a mise en nous, alors quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Une porte. Et je bénis Dieu parce qu'on avait discuté avec Manu. J'avais déjà fait mon message. Et ça confirmait ce qu'on se disait. Parce que Manu me partageait que l'église devrait être un lieu où il y a des conversions. Vous savez pourquoi l'église est moins un lieu où il y a des conversions qu'avant? Parce qu'on a délégué On ne croit plus qu'on est la porte. Jésus ne nous a jamais dit d'organiser des réunions d'évangélisation, tout ça. Bien sûr, je ne suis pas contre. Mais Jésus a dit que chacun de nous, on doit être des disciples, des témoins. Vous comprenez? Et en fait, on doit être des portes pour les non-chrétiens. Mais que le Seigneur nous aide déjà. Parce que si on est des portes les uns des autres, on va se communiquer ce feu les uns les autres. Donc, ce sera plus facile pour être des témoins pour les non-chrétiens. Nous ne sommes plus des témoins pour les non-chrétiens parce que nous, déjà, entre nous, nous nous tirons les uns les autres. Si on ne se tire pas, on ne réalise même pas qu'on peut être une porte de bénédiction pour l'autre, qui est juste à côté. Deuxième point, une porte pour le salut. J'aime ce que Paul et Silas vont dire. Crois au Seigneur Jésus. Monsieur, qu'est-ce que je dois faire? Le geôlier les a fait sortir. Porte pour libérer les captifs. Mais deuxième chose, on va lui dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le texte de Luc nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur nous pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, attention. Moi, j'aime bien parce que parfois, ce texte est cité comme une promesse. Vous savez, j'ai reçu Jésus dans ma vie et je suis là en train de dire, Rabasoko, au nom de Jésus, Seigneur, hein, tu l'as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il a dit ça à qui? Ça se peut que ça peut être une parole révélée à toi, ok. Mais il a dit ça à un geôlier. Maintenant, si tu dis, ouais, Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur, Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je prie pour mon mari, je prie pour mes enfants. Et tu as une porte fermée, barricadée, une conduite, n'importe quoi. Et tu es en train de prier pour que l'autre se convertisse. C'est du n'importe quoi. C'est pas une promesse pour tout le monde. C'est une promesse à un geôlier, mais aussi à un geôlier qui va ouvrir sa porte, qui va ouvrir sa maison. On peut être chrétien, et je l'ai dit, porte fermée. On peut même être des ministères, mais avoir des portes complètement fermées. Parce que il n'y a pas cette dimension de je suis une porte, j'ai une responsabilité, je veux ouvrir mon cœur, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que j'ai connu dans le passé, peu importe les déceptions, je veux ouvrir une porte. Peut-être quelqu'un m'a déçu, peut-être des églises m'ont déçu, mais je prends conscience que je suis une porte et Dieu m'appelle à être cette porte par laquelle plusieurs vont passer des ténèbres à la lumière, vont passer peut-être de la captivité à la liberté. Ce n'est pas à Dieu de faire entrer l'évangile dans ta maison. Mais à toi, à travers ta vie, ta conduite, ta foi, tes sacrifices. C'est ça, être une porte. Si je prends conscience que je suis une porte, c'est moi qui va me sacrifier. C'est moi qui va payer le prix. Mes décisions sont des portes ouvertes ou fermées pour les autres. Je dois réaliser cela. Tu as une porte pour le salut. Une porte de salut pour ta famille. Esther, rapidement. Vous connaissez pour certains l'histoire d'Esther. Esther 4, 14. Bien au contraire, Mardoché va le dire. Car si tu persistes à garder le silence dans de telles circonstances, dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs. Alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Qui sait? Dieu te donne une position. Dieu change quelque chose dans ta vie. Parce que il te donne une autre opportunité d'être une porte. Mais comme nous lions tout à travers nos yeux, on n'arrive pas à comprendre que là où on est, la position que nous avons, c'est pour être une porte de salut. Et quand par salut, bien sûr, je parle de l'évangile qui apporte le salut. Mais encore une fois, le mot salut peut être pris de manière plus globale. Quelqu'un a besoin du salut, quelqu'un a besoin de la joie, quelqu'un a besoin de la vie, quelqu'un a besoin de la paix, quelqu'un a besoin de réellement connaître autre chose. Et où tu es, c'est une porte. Moi, quand je lisais ça, je disais, oh Seigneur, qui sait que j'ai acheté rien que là pour quelque chose? Nous, on voit, ouais, banque ou financier, bah, bien sûr, je n'ai pas contre ces choses. Qui sait? Qui sait où tu es? L'appartement où tu es? Là où tu es? C'est pour quelqu'un. C'est pour une vie. C'est pour une famille. Qui sait? Quand on commence à réfléchir comme ça, on ne regarde plus à nous. Je vais parler de l'égocentrisme tout à l'heure. Qui sait que nous sommes ici pour quelque chose? On raisonne trop par rapport à notre confort. Quand c'est confortable pour nous, alléluia, gloire à Dieu. Dieu m'a exaucé. Ah, il est bon. Hein? Merci Seigneur. Qu'on est reconnaissant, c'est déjà pas mal. Quand c'est pas confortable pour nous, ah, carabat. Et on commence à chasser des démons et que pour qu'il y ait des percées. Si Dieu t'a placé ou t'a déplacé, c'est parce que tu as une porte là où tu dois être. Et je dois réaliser que je suis une porte. Arrête de pleurnicher, arrête comment on dit ça, de ressasser le négatif, mais réalise que là où tu es, comme Mardoché a dit, qui sait si ce n'est pour de telles circonstances, ça peut être un lieu, ça peut être une saison. Oh, que ta saison, peu importe ta saison. Quelqu'un me disait, mais Romaric, ça va dans cette saison de vacances pour certains, pour plusieurs qui sont fatigués, pour d'autres qui sont complètement à l'ouest. Toi, comment tu vis ça? Et je disais, je bénis Dieu pour cette saison parce que par sa grâce, on est assez fort et on a assez de force avec Céline pour porter. Et qui sait si dans cette saison, Dieu nous a équipés pour pouvoir porter? Et ce n'est pas une question d'être au-dessus. Qui sait? Dans la saison que tu as, dans la saison que tu vis, que tu traverses. Et quand on réalise pas qu'on est des portes, on est tout le temps là à se comparer, on est tout le temps là à regarder, et tout est à propos de nous. Pardon, je suis désolé, mais tout n'est pas à propos de toi. Certains peut-être tombent de haut, mais tout est à propos de l'autre. Dans un dernier point, et je crois que c'est le point qui va brasser certains, prépare ton cœur. Dis, cher Saint-Esprit. C'est sérieux. Dis, cher Saint-Esprit. Je t'ouvre mon cœur. Comme le geôlier, nous pouvons être une porte pour la guérison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Oh. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Et le texte de Luc nous dit que nous avons le Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est le moment. À l'heure même, en pleine nuit, nous souvent on met l'accent sur le fait qu'il s'est fait baptiser le jour même. Mais pourquoi il s'est fait baptiser le jour même? Parce que le fruit était visible le jour même. Il y en a qui font faire une doctrine, ouais, vous voyez le baptême, il ne faut pas attendre longtemps. Ok, je suis ok avec ça. Mais là, quand tu lis le texte, à l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmène pour laver les plaies. Pardon. Et quand les apôtres voient ça, ils disent, mais le gars, il est complètement changé. Le fruit, sont là, sont visibles, baptisons-le. Le geôlier n'a pas regardé au timing. À l'heure même, en pleine nuit. Je parle à quelqu'un dont l'heure et la nuit justifie le fait que la porte soit fermée. Je ne peux pas guérir les autres. Je ne peux pas panser les plaies des autres. Je ne peux rien faire pour eux. Moi-même, il faut d'abord que je me soigne. Moi-même, j'ai besoin de connaître et de comprendre certaines choses. Et le Saint-Esprit, pendant que je préparais ce message, me faisait me rappeler Timothée, quand il dit, dans les derniers jours, les gens seront, je disais tout à l'heure, égocentriques. Et vous savez, le mot égocentrique, pour ceux qui connaissent Rick Renner, j'ai bien aimé creuser ce mot, c'est érudit en grec, amoureux d'eux-mêmes. Les gens sont tellement amoureux d'eux-mêmes que lorsqu'il y a la nuit, il n'y a que moi qui compte. Écoute mes problèmes. Oh, adore mes problèmes. Écoute-moi parce que toi, tu ne connais pas ce que par où je suis passé. Moi, je souffre. Moi, c'est vraiment, vraiment terrible. D'ailleurs, je suis allé à la plage, je me suis reposé. Je suis rentré, j'ai eu un coup de soleil. C'est terrible. Est-ce que tu as des vacances, toi, en fait? Je plaisante, à peine. Mais j'aimerais parler à quelqu'un. Peu importe la nuit et l'heure de ta saison, tu as une porte pour la guérison de quelqu'un d'autre. Quelle est la dernière fois que tu as lavé la plaie de quelqu'un? Trop souvent dans l'église, on compte les fois où on nous a lavé les plaies. Trop de fois dans l'église, on dit « Ah, oh, le pasteur m'a pas lavé les plaies. Le pasteur m'a pas appelé. Le pasteur n'a pas fait ceci. Ou bien mon frère, ma sœur, il n'y a pas d'amour. » Si on se lavait les plaies les uns les autres, et si on commençait par là? Ah, le geôlier, c'est lui qui lave les plaies. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci, écoute bien. Il n'y a pas de meilleur moment que ce que tu vis pour manifester le caractère de Christ. Quand tu penses à Christ, chaque moment est une occasion pour être une porte de bénédiction. À aucun moment, Christ a dit, même à la croix, il est en agonie. Il est en train de parler à quelqu'un qui dit, ne t'inquiète pas, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Il ouvre la porte à quelqu'un. Il est en train de souffrir, d'agoniser. Il croit même à un moment donné que le Père l'a abandonné. Il n'y a aucun moment. Tu es en train d'être crucifié. C'est le bon moment d'ouvrir la porte à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui dit « Au secours, je suis là, nous sommes tous ici. » Ah oui, mais je souffre. Je suis là. Joseph, j'aime bien, et là, ça m'a fracassé. Je termine avec ce dernier exemple de Joseph. Genèse 45, il est une porte de guérison extraordinaire. Alors Joseph leur dit à ses frères, « Venez près de moi. » Ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il. Votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne vous accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Pendant longtemps, j'ai vu que la dimension que Joseph apportait le salut en termes parce qu'il y avait la famine était une réponse pour nourrir et que cette famille puisse rester vivant. Mais le Saint-Esprit m'éclairant, me disant, c'est plus qu'une question de famine, c'est plus une question d'avoir de quoi vivre. C'est une question de guérison de cœur. Je suis là pour que vous ne vous tourmentez plus. Je suis là pour que vous n'ayez plus de remords. Je suis là pour que vous soyez guéris de vos erreurs, de vos bêtises. Quoi? Est-ce que Joseph était le mieux placé? Je parle à quelqu'un ce matin, et c'est ça qui m'a fracassé, et qui peut venir nous chercher. Sois un instrument de guérison pour ceux qui t'ont blessé. Ah! Ah! Non, Seigneur! Est-ce que j'ai bien entendu? Arrière de moi cette pensée! C'est d'autres! Je suis trop affecté! Joseph! Qui était victime! Joseph, qui a été vendu comme esclave, c'est lui, rempli du Saint-Esprit, qui va être cette porte d'espérance pour le cœur de ses frères qui l'ont blessé, qui l'ont maltraité, qui l'ont trahi. Tu es une porte pour celui, celle qui t'a trahi. Tu es une porte de guérison pour celui, pour la personne qui t'a trahi. Tu es une porte de guérison pour la personne qui a parlé mal de toi. Tu es une porte de guérison pour la personne qui t'a piétiné. Tu es une porte de guérison. C'est ce que Jésus a fait. Alors que nous étions dans le péché, alors que nous étions loin de lui, il a été une porte de guérison pour nous. Que Dieu nous aide à être cette porte de guérison pour les personnes qui nous ont fait du mal. Et c'est ce point que ça fait des semaines dans ma propre vie, je dis Seigneur. Parfois je dis, oh, mais j'avais essayé. Si la porte est ouverte, régulièrement, le Saint-Esprit va dire, essaye encore. Oui, mais essaye encore. Quelqu'un a besoin d'entendre, essaye encore. Ne sors pas de ce lieu en disant, ah, c'est à lui de faire le premier pas. Si tu le penses, ne me le dis pas, ça me décourage. Parce que j'ai prié vraiment pour que tu ne le dises pas. Je termine avec ça. Dernier texte. Acte 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, Je rappelle juste le contexte. Ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Celui qui devait les garder, c'est celui qui le fait sortir et c'est celui qui lave les plaies. Alors moi, je suis encouragé pour ma vie. Le Saint-Esprit fait une œuvre extraordinaire. Celui qui était prêt à se suicider est celui qui est prêt à donner sa vie. Est celui qui est prêt à ouvrir une porte. Celui qui était prêt à les garder et à les maintenir prisonniers est celui qui est prêt à ouvrir des portes, à les faire sortir de la prison. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? La vie de l'Esprit, le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas des forces, des capacités, incapacités. C'est pas de ça quand on parle. De toi-même, tu peux pas ouvrir une porte pour le salut de quelqu'un. Tu ne peux pas libérer les captifs. Tu ne peux pas panser les plaies. De toi-même, tu peux pas. Mais le Saint-Esprit peut venir sur toi. Amen.